Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Notre invité n'a plus l'âge d'être considéré comme un jeune premier au cinéma, et pourtant, tout le monde le voit encore avec son sourire enjôleur de trentenaire dans Les Randonneurs ou La Vérité si je mens. Notre invité n'a pas encore l'âge d'être considéré comme un monument du cinéma français, et pourtant, là aussi, ils sont rares ceux qui peuvent se vanter d'avoir joué dans le mythique Péril jeune de Cédric Clapiche, à jamais gravé dans l'esprit et le cœur de plusieurs millions de Français. Ni jeune premier, ni monument, et surtout pas démodé. Même pour la nouvelle génération, il arrive à incarner des personnages de référence, dont on répète les répliques ou dont on imite les gimmicks, comme Éric Pérez dans BRI, la série de Jérémy Guez, car notre invité, oui, fait partie des acteurs qui acceptent le transfert du grand au petit écran. L'alternance entre cinéma, plateforme et bonne vieille télé. Et ce n'est pas si fréquent. Qu'est-ce qui le guide dans ses choix? Qu'est-ce qui le porte? Il aime jouer? Alors il joue, c'est peut-être aussi simple que cela. Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard et bienvenue à vous, Vincent Elbaz. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon, dans ce décor magnifique. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de rôle? Est-ce que c'est un feeling avec un réalisateur? Est-ce que c'est un scénario? C'est une question complexe, c'est une alchimie?
C'est tout ça à la fois, oui. Une histoire, un scénario, un rôle et la proposition de départ qui est toujours la même, jouer. Jouer, il y a quelque chose de ludique auquel j'ai du mal à résister dans cette proposition.
Et vous aimez tout jouer? Ça peut être le dragueur des randonneurs, comme le voyou dans BRI. Ça peut être...
Oui.
Ou est-ce qu'avec l'âge, vous commencez à vous interroger davantage sur vos choix de rôle? Et est-ce que vous interdisez des rôles, peut-être?
J'aime tout jouer, mais pas n'importe quoi.
Voilà. Avec l'âge, ça évolue ou pas du tout?
C'est les propositions qui évoluent.
Ouais, c'est les propositions qui évoluent.
Ce sont les scénarios qu'on propose avec Oui, dernièrement, effectivement, ce rôle secondaire là dans une série sur la brigade de répression d'intervention. On proposait ce malfrat gitan. C'est une communauté que je connais pas. C'est un monde que je connaissais pas. Ça m'a intéressé de l'explorer, quoi. De l'explorer à fond.
Ouais. Voilà. Il y a une curiosité pour d'autres univers, d'autres rôles que vous n'avez pas encore joués. Il y a cette motivation-là.
Oui, il y a plein d'univers que j'aimerais explorer. Le monde politique, par exemple, parce que c'est un univers qui m'est complètement étranger. Je n'ai jamais, à ma connaissance, rencontré d'homme politique, par exemple. C'est un monde très, très à part pour moi. Enfin, c'est assez fascinant. Les rouages du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est assez intéressant.
Qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers?
Oh, c'est cette phrase d'un essayiste, d'un philosophe, il me semble, qui s'appelle Jean-Claude Milner,
ouais.
Et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle politique des êtres parlants, je crois. Mm-hmm. Mais il disait dans ce bouquin, il me semble que c'est dans ce bouquin d'ailleurs, la politique, c'est l'école des émotions. Oh. Et le couple, c'est l'école de la politique. Et cette phrase m'avait frappé sur les deux plans, c'est-à-dire à la fois le rapport amoureux comme école de la politique.
Ouais, ça m'a, on ne ferait pas le lien naturellement.
Non. Et cette phrase, elle revient souvent dans mes lectures de scénario. Quand j'aborde des rapports de couple la politique, ça m'a, comme école des émotions, c'est-à-dire cette confrontation au réel. Ou à la réalité, aux événements qui les percutent, quoi, et notamment, ou ne serait-ce que la campagne électorale, par exemple,
des vrais rôles à jouer et presque du mensonge à formuler. On est dans des promesses dont on sait que parfois.
Oui, ça c'est le rôle, mais la rencontre avec le réel, c'est-à-dire quand on se cogne, quand on se cogne à la réalité, ce moment où on se percute. C'est ça l'école des émotions. Je crois, je l'interprète comme ça. Quand les politiques sont percutés par quand ils se cognent dans quelque chose qui les alors ça peut être évidemment des choses tragiques, comme les attentats, je pensais à la période du Covid. Quand le discours très libéral, un peu économie libérale de Macron se transforme en un discours hyper social, par exemple. J'écoutais, comme tout le monde à la télé le soir...
Ces interventions ?
Les interventions, le nombre de morts du Covid, enfin ce truc un peu mortifère parfois, mais les interventions. Mmh. Et j'ai été étonné de voir à quel point il y avait un changement de... Je m'étais dit, c'est peut-être ça aussi, les émotions traversées qui permettent de se transformer, de s'adapter.
Je parlais de ces acteurs qui acceptent de jouer dans les séries après avoir fait du cinéma. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. Est-ce que vous, quand vous franchissez le pas, votre entourage vous dit attention, on n'y va pas, les plateformes, la télévision, c'est pas pour toi ? Est-ce qu'il y a eu ce genre de frein ? Ou est-ce que ça y est, la frontière, elle est un peu plus poreuse entre séries et cinéma ? Oui. C'est presque chic, même de jouer dans des séries maintenant. Devenu un peu... C'est différent ? Le regard est différent ?
Maintenant, les producteurs appellent les agents pour des films et puis on leur répond il peut pas, il est pris par sa série.
C'est pas honteux de le dire.
Il a sa série, il peut plus, là.
Et c'est plus honteux de le dire.
C'est plus honteux de le dire, mais ça devient problématique, quoi, parce que ça prend du temps, une série.
Les emplois du temps se télescopent.
Ouais. Mais il y a une richesse d'écriture dans les séries aussi, un peu romanesque. Le côté roman, nouvelle qui se avec les suites, quoi. Il y a une richesse d'écriture, je trouve, dans cette grande série.
J'ai envie de creuser avec vous, effectivement. Qu'est-ce qui change pour l'acteur, pour son jeu d'acteur, d'être dans une série ou dans un film?
Moi, j'ai pas encore fait The Wire ou Les Sopranos, ce genre de choses. C'est ce que j'appelle vraiment les grandes séries qui portent un regard sur l'humain, la société. Presque philosophique, quoi.
Et dans le jeu d'acteur,
j'ai pas eu accès à ça encore, mais par contre, j'ai trouvé dans BRI ou dans des séries françaises que je regarde, le Bureau des légendes ou sur Arte, certaines très bonnes séries, Les Papillons noirs récemment. Il y a une richesse d'écriture. Qui est proche du roman, je trouve. Je ressens la même chose que quand je lis un roman face à une très bonne série.
Mais au-delà de ça, la cadence, le rythme, on dit que c'est toujours quand même...
À tourner, vous voulez dire ?
Oui, à tourner, pour un acteur.
À tourner, ça n'a rien à voir, oui, c'est sûr.
C'est vrai ?
Oui, c'est pas... la série, moi, ça m'a appris une chose, c'est l'amour des plateaux de cinéma.
Pourquoi ?
Parce que c'est le plateau d'une série, c'est super, mais enfin, c'est... Disons qu'un metteur en scène ou un showrunner de série, il peut pas arriver sur le plateau le matin en disant finalement ce décor, je vais pas le filmer comme ça, on va faire un peu autrement. Si on pouvait repeindre cette porte en rose, parce que ça c'est pas possible. Sur un film d'auteur, je pense que c'est possible. C'est possible d'arriver le matin et d'avoir, même si on est très préparé, d'avoir une sorte d'inspiration nouvelle qui réoriente la séquence.
Alors
ou la
que
scène.
Sur la série, il faut
sur
être
une série,
efficace.
C'est plus compliqué. Ouais.
Mais vous diriez que ça obéit même à des logiques un peu marketing, qu'il faut être un peu spectaculaire dans son jeu, plus que dans le cinéma où on va chercher la subtilité quand on est acteur ou pas
C'est juste que la façon de fabriquer une série et de l'écrire et de la produire, bon, je ne suis pas producteur, mais je pense que les producteurs de séries se heurtent aux diffuseurs. Plus le process avance et plus les demandes, elles peuvent être du côté du mainstream, de quelque chose de plus consensuel, etc. Donc, je pense qu'ils sont... Le cinéma d'auteur, c'est pas ça. Le cinéma d'auteur, c'est il y a un scénario, un producteur, un metteur en scène, un auteur qui écrit, et ensuite, une fois qu'il y a le scénario, ils vont trouver l'argent. Il y a pas ce temps long d'attendre des green lights, des feux verts pour telle écriture, puis tel épisode. Putain,
et quand on est acteur, est-ce qu'on doit être toujours dans la séduction? Est-ce qu'on doit toujours essayer de provoquer le coup de cœur chez un réalisateur, un producteur? Ou est-ce que quand on a votre notoriété, on ne cherche plus à faire ça, on est comme on est et on nous prend comme on est? Ou est-ce que c'est compliqué d'être dans cette position d'acteur où on doit donner envie, on doit provoquer le désir?
Je ne vais pas montrer forcément... mes faces les plus
intimes,
non, mais les plus qui pourraient poser problème sur un plateau.
Ouais.
Je vais plutôt montrer c'est pour ça que je crois pas tellement au casting, par exemple.
Ah bon?
Non, parce que qu'est-ce qu'on peut savoir de la vérité de quelqu'un pendant un casting? Un casting, c'est vouloir le job. Donc bon, quand je veux le job, je fais le casting et je le fais le mieux possible et je montre tout, les meilleures facettes de mon jeu ou de moi.
Ça vous arrive encore de faire des
castings? Ça m'est pas arrivé depuis un moment, mais je veux dire, ça m'est arrivé. Et on montre pas forcément... c'est difficile de montrer qui on est vraiment en casting. Moi, j'ai jamais considéré qu'il fallait plaire à tout prix.
D'accord.
Mais par contre... surprendre, aller chercher en soi des ressources qui surprennent, se surprendre soi-même, se laisser aller dans un processus qu'on maîtrise pas forcément et qui surprenne l'œil du metteur en scène sur le plateau ou son partenaire ou sa partenaire et qui surprenne aussi des choix qui surprennent le spectateur.
Ouais, c'est provoquer la petite lumière dans le regard.
Oui, si c'est ça être dans essayer de séduire le public, oui, peut-être du côté de la surprise.
Vous l'avez déclenché, le coup de cœur, plusieurs fois, avec Cédric Lapiche, qui vous offre votre premier rôle au cinéma, avec John Malkovich aussi, qui vous a dirigé au théâtre, deux fois, je crois. La belle aventure humaine, vous l'avez aussi vécu avec La vérité si je mens. Ce sont même les producteurs du Péril jeune qui vous proposent de faire partie du casting. Vous dites oui pour le 1 de La vérité si je mens, non pour le 2, mais ils reviennent à la charge pour le 3, ils insistent, ils vous veulent vraiment, un peu comme pour, c'est ce que j'ai ressenti en lisant tout cela, un peu comme pour reconstituer une sorte de famille. Et vous cédez parce que vous êtes touché, c'est ce que j'ai lu dans vos interviews, c'est qu'à la fin vous dites, bon bah s'ils me veulent vraiment, c'est que quand même, peut-être ils m'aiment bien. C'est aussi ça quand même le monde du cinéma, il y a quand même une affaire d'amitié, voire de famille.
Alors oui,
ouais.
Et non.
Ah.
C'est-à-dire que oui, Farid et Aïssa, on avait un lien très fort, parce que ce sont les producteurs du Péril jeune. J'avais pas besoin du 2,
ouais.
Donc je l'ai pas fait, en fait. J'avais pas besoin du 2, j'en voulais pas. J'en voulais pas et je leur avais dit, je me souviens même le soir, de l'avant-première du 1. Et on va faire une suite et tout. Je dis, ouais, ça sera sans moi, les gars.
Pourquoi?
Je sais pas pourquoi, j'avais sûrement une angoisse à l'idée d'être enfermé dans un truc de juif séfarade, je sais pas, d'ove, de. Au final, je pense que ça aura rien changé, que je le fasse ou pas, au fond, mais bon, je l'ai pas fait. Et j'ai tout fait pour pas le faire. C'est-à-dire dire non, refuser, demander beaucoup d'argent pour pas le faire. Au final, ils disent oui. Enfin bon, donc, ça s'est transformé en une sorte de rendez-vous où on s'est vus tous les trois et où ils sont devenus. Oui, mais ils m'ont regardé en disant mais t'es complètement con quoi. Pourquoi tu nous dis non quoi. Bon, mais on est resté finalement, on est resté liés. Et le 3, j'en avais besoin.
À quel niveau?
Je sortais d'une série qui s'appelle Nos Limites, produite par Besson.
Oui.
Et ça faisait 3 ans que je ne faisais plus de cinéma. Donc,
il fallait réintégrer le monde du cinéma.
Je pense que j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin d'un film comme ça, grand public, populaire.
Vous avez l'air d'aimer les films de bande quand même, de bande de copains, de groupes. C'est un hasard ou c'est aussi parce qu'il y a un côté sympa de se fondre dans le groupe. Il y a quelque chose que vous allez chercher dans ce groupe. La vérité si je mange.
J'ai besoin de l'autre.
Les randonneurs, tout ça, c'est du.
Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai débuté dans les films de groupe.
Ouais.
Les périls de les randonneurs, la vérité, c'est vrai.
C'est ça, c'est le super copain d'une bande de copains qu'on a tous envie d'avoir.
Quoi. Oui, j'ai trouvé ma place facilement dans les bandes, peut-être. Il est esprit de troupe. Je pense que je dois avoir un esprit un peu de partage. Comme ça, j'aime bien partager. J'ai pas de problème à partager. Le générique.
Ouais. Et l'affiche.
L'affiche. Ou de ne pas être sur l'affiche, ou d'y être. Enfin, tout ça n'a pas très, beaucoup d'importance pour moi.
Vous mettez peu d'ego, en fait, finalement.
Si, j'en ai. Si. Non, j'ai de l'ego, mais l'ego, je le mets entre action et coupé, quoi. C'est-à-dire qu'entre action et coupé, je laisse libre cours à toutes mes impulsions de jeu et je prends la place qui m'est donnée, pas plus, mais j'essaie de la remplir. Et puis surtout, je prends une liberté. Si ça ne plaît pas, il coupe, on refait autre chose. Mais je m'autorise toutes les libertés possibles entre action et coupé.
De tenter des choses.
Oui, mais après, c'est vrai que les films de groupe, c'était chouette, c'était super. J'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que au départ, je me voyais faire du théâtre, moi, pas tellement de cinéma, en fait. Donc c'était l'esprit de troupe, l'esprit de groupe. Et puis, j'ai besoin de l'autre pour jouer, j'ai besoin de...
Ça vous a pénalisé dans votre carrière de pas forcément vouloir être tout en haut de l'affiche et d'accepter justement cette place qu'on vous donne, pas plus?
Je vais pas prendre un scénario pas bon parce qu'il y a le rôle principal, quoi.
Bien sûr.
Ça me... C'est d'ailleurs... C'est pas très... Bon, je pense que c'est dommageable pour un acteur de faire trop de rôles principaux dans des films pas bons.
J'ai une archive à vous proposer, Vincent Elbaz. Vous allez la découvrir en même temps que le public et je vais la lire pour ceux qui nous écoutent. C'est une archive délivrée par nos partenaires, les Archives Nationales. Il s'agit d'un mot collé à la porte d'une salle de la Sorbonne pendant le mouvement étudiant de mai 68. « Avis aux flics » est-il écrit. « Cette salle a été utilisée par le mouvement étudiant-travailleur. Votre arrivée est inutile. Vous n'y trouverez rien d'intéressant pour votre appétit fasciste. Vous n'êtes que des pantins ridicules, incapables d'une réflexion intelligente, imbécile, révolutionnairement vôtre. » Je montre cela à l'enfant d'ex-68ard.
Ah oui.
Je crois que votre mère a occupé la Sorbonne même.
Oui.
Qu'elle a jeté des pavés sur les CRS.
Oui, oui.
Est-ce que ça dit quelque chose de vous? Qu'est-ce que ça a forgé dans l'adulte que vous êtes devenu, cet esprit 68ard dans lequel vous avez été quand même un peu élevé?
Oui. Très extrême gauche, quoi. Quand j'avais 18, 20 ans, je dirais que j'étais très extrême gauche.
D'accord.
Mais alors moi, à 18, 20 ans, l'extrême gauche, si vous voulez, c'est plus la même que celle de ma mère, trotskiste, léniniste, des années 60. J'ai pas adhéré à aucun mouvement ou j'ai pas été du proactif, mais en tant qu'acteur, à l'époque, enfin, jeune acteur, enfin, qui prenait des cours de théâtre, j'allais souvent voir le théâtre de l'opprimé. C'était une compagnie de théâtre qui venait du Brésil ou de l'Argentine, je crois, qui jouait à l'époque dans les favelas, etc. Et qui avait donné un spectacle sur Khaled Kelkal.
Ah oui.
Et pour moi, à l'époque, Khaled Kelkal, c'était le GIA, l'islamisme et l'extrême gauche. Genre, je voyais Khaled Kelkal comme un révolutionnaire religieux, politique et religieux, mais du côté religieux, du côté spirituel. Et donc je voyais dans l'islamisme un mouvement qui s'apparentait pour moi au mouvement trotskiste-léniniste que j'avais en fantasme du côté de ma mère avec 68 ardes. Et donc j'avais été saisi par ce spectacle où il y avait un acteur qui jouait Khaled Kelkal. Ouais.
Impliqué dans les attentats de 95, oui, un terroriste.
Oui, hein. qui est un terroriste, ouais. Qui avait fait des attentats de 95 dans le RER B à Saint-Michel. Mmh. Qui avait tué beaucoup de monde. Et donc j'avais envie de jouer ça. Et donc je m'étais procuré le texte, dans l'intégralité du finalement des interviews de Khaled Kelkal. Mm-hmm. Et en lisant l'intégralité, j'avais été heurté parce que dans le spectacle, il n'avait pas retranscrit. Je suis tombé sur le texte intégral. Je suis tombé sur Khaled Kelkal qui parle des Juifs.
Ah.
Et là, ça a été un choc pour moi parce que j'étais très. Je voyais ce mouvement comme un mouvement révolutionnaire qui voulait, de manière spirituelle, utiliser la religion à des fins politiques, quoi.
Et là,
je voyais pas de mal à ça, ouais. Cette utilisation politique, ouais. Du religieux.
Ouais.
J'avais 18 ans, j'étais très anti-système, etc., quoi. Et alors, la haine des Juifs. Dans les témoignages, Khaled Kelkal m'avait complètement déstabilisé parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne comprenais même pas ça. Je ne comprenais pas rapport il y avait entre
un idéal révolutionnaire,
effondrer un système capitaliste, quitte à faire des attentats, etc., comme la bande Abadère l'avait fait, etc. Et...
La haine des Juifs.
La haine des Juifs.
Et c'est là que ça vous...
Et ça m'a complètement réveillé. C'est-à-dire que je suis passé de l'extrême gauche à... Ça m'a complètement ouvert les yeux sur l'extrême gauche et sur ce... Oui, cette... D'un coup, les gens que j'aimais me haïssaient, en fait. Il n'y avait pas évidemment que ma fascination pour Khaled Kelkal, mais il y avait aussi celle pour les leaders d'extrême gauche, les mouvements. Ça m'a éveillé ma conscience.
Est-ce que ça veut dire que le comédien que vous étiez et que vous êtes.
Ah ben, je n'ai pas fait le spectacle.
Voilà, ne pourrait toujours pas jouer ce genre de rôle.
Ah si, je pourrais jouer un terroriste. Non, mais alors c'est un autre problème. Je pourrais jouer un pédophile, un terroriste. Tout ce que vous voulez, j'ai pas de morale là-dessus. J'en ai rien à secouer. Si je dois incarner l'inhumanité, pas un extraterrestre, mais l'inhumanité, c'est-à-dire quelqu'un qui est un être humain qui se comporte de manière inhumaine, j'ai aucun problème pour le faire. Mais mes positions. À l'époque, on changeait politiquement, quoi, à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est cette rencontre avec l'antisémitisme de l'extrême gauche qui m'a un peu ouvert les yeux, quoi.
Moi, j'ai des photos en attendant, notamment celle-ci. Je sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Kaby Lame. C'est un TikToker italien qui est devenu une star dans le monde entier grâce à des vidéos drôles.
Oui.
Peut-être que vous n'êtes pas sur TikTok, mais non. Les enfants le sont, justement.
En 2022, pas mes enfants, mais...
Alors, on va en parler, parce qu'en 2022, dans le monde, les enfants de 4 à 18 ans ont passé en moyenne 1h47 par jour sur TikTok, plus de 4 heures par jour au total devant des écrans. Et c'est un peu la question, vous qui avez 4 enfants, qu'est-ce que vous leur dites sur les écrans? Est-ce que vous mettez des limites?
Je suis de plus en plus inquiet, effectivement, pour mes enfants. Je vais essayer de donner le bon exemple, déjà.
D'accord.
Je vais essayer. Parce que moi-même, je suis en relation organique avec mon portable. Donc, si vous voulez, c'est comme tout le monde, quoi.
Oui, c'est-à-dire ce que j'allais dire, on l'est un peu tous.
C'est-à-dire que je suis dans la croyance qu'il faut dominer cette
addiction.
L'addiction, c'est encore un terme un peu light pour décrire ce qui nous arrive là. Mm-hmm. Je trouve. Donc je vais essayer de donner le bon exemple concrètement en fait. Je propose d'acheter des CD. Pour éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sélection automatique de ce qui est censé nous plaire en musique. C'est-à-dire qu'ils font plus aucun effort de recherche, quoi.
D'ouverture.
Oui, il n'y a plus aucun effort qui est fait pour aller chercher des trucs. Ouais. C'est tout vient à nous de manière très
artificielle.
Oui, artificielle, et ce sont des désirs qui deviennent artificiels. C'est même l'absence de désir, en fait. Mm-hmm. Donc je vois, par exemple. J'ai peur de découvrir une absence de désir chez mes enfants, par exemple. Ça, c'est une angoisse. C'est l'absence de désir, d'imaginaire, de curiosité sur le monde et tout ça. Ça, c'est vraiment un truc qui
vous inquiète.
Oui, la façon dont les téléphones répondent à nos demandes immédiates sans forcément réfléchir beaucoup. Ça m'angoisse vachement pour mes enfants. Donc bon, ouais, je sais pas quoi faire, un peu démuni.
Lutter à notre échelle.
Je me renseigne, je suis en train de lire un bouquin là-dessus, savoir quoi faire.
J'ai une deuxième photo, alors il s'agit de l'affiche du film Anatomie d'une chute, Palme d'or à Cannes.
Oui.
Je fais un blocage, ce sont les mots d'Elisabeth Borne, qui a refusé d'aller voir ce film, la première ministre.
Pourquoi ?
Parce que la réalisatrice Justine Triet a critiqué la politique gouvernementale, notamment avec le monde artistique. Quel regard vous portez sur ce boycott et sur, finalement, est-ce que ça veut dire que les réalisateurs ont le droit de traiter de politique dans leurs films, mais pas d'en parler, ou comment vous voyez ça ?
Je pense qu'on n'en a rien à foutre, non ? C'est-à-dire que ce discours, il a été prononcé, mais au fond, tout le monde s'en branle, non ? J'ai l'impression. Moi, ça ne m'a pas percuté. Je ne sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est son film, en fait. Son film, quoi. Voilà, moi, son discours à Cannes ne m'a pas du tout empêché coupé du désir de voir ce film qui a l'air.
Le désir encore, vous en parlez beaucoup.
Oui, qui a l'air extraordinaire, ce film. Enfin, j'ai très envie de le voir. Je pense qu'il joue encore.
J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons, Vincent Elbaz. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Vous avez la sagesse, la prudence, la justice. Et l'éloquence, laquelle de ces vertus vous caractérise le plus ou vous parle le plus ?
Me caractérise non, mais je choisirais le courage, qui n'est pas là.
Ouais, mais vous avez le droit d'en choisir une autre, le courage.
Le courage de... Mais c'est pas, ça ne me caractérise pas, mais j'admire cette vertu-là. D'avoir le courage du discernement. Voilà, ça, c'est ça, en fait. Je choisirais ça. Malheureusement, je...
Elles ne sont pas là, mais
la prudence, on les garde. Non. La justice, bon, oui, évidemment, le sentiment de justice. Ouais. Mais...
Et courage et discernement, c'est intéressant.
Mais il y a plein d'idéologies qui sont cachées derrière l'idéal de justice et qui ont... Bon, voilà. Qui n'en ont pas fait une vertu. L'éloquence. J'admire l'éloquence. Ça, j'admire Édouard Baer, des gens comme ça, vous savez. Qui sont des capables de...
Des hableurs.
D'écrire en direct. D'écrire de manière cérébrale. De créer de l'écriture, quoi, en direct, comme ça, par des improvisations.
Mais on va retenir courage et discernement. Ce sont vos mots et vos vertus à vous. Merci beaucoup. Vincent Elbaz, d'avoir été notre invité ici dans ce Dôme Tournon. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Et puis on se retrouve très très bientôt sur Public Sénat, émission à retrouver en podcast. N'oubliez pas, à bientôt, merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.